Hello, est-ce qu'on est live? Est-ce qu'on est
Ben oui,
live?
ben oui, ben oui.
Ben oui, on est live. OK, on est live. Attends un peu. Moi, j'ai oublié d'ouvrir mon YouTube comme un épée. Ça sera pas très long.
C'est tellement épais.
Calisse que je t'attends. Donc, bonjour et bienvenue à Balado Ludique, une émission, un podcast. C'est quoi donc, Vincent? Vas-y
un
donc,
podcast calisse. Entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 13, épisode 12, 12, 12, la hausse des prix et notre niveau de tolérance. T'as-tu mis au moins la toune de
pas encore, je l'ai pas, moi. Écoute, moi, je suis pas...
Pain, 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 pain. Pain, pain. Attends un peu, on va le mettre au moins sur le truc là, ici là. Bon, ouais! Hey!
Ah oui, c'est les 3 secondes, c'est vrai.
On est professionnel, mon ami, là, avec nos bières.
Ah, c'est incroyable.
Cheers,
ben là,
guys!
Ben là, je vois qu'il y a du monde qui vient d'arriver. Bonjour à nos spectateurs. Donc, aujourd'hui, de quoi qu'on va parler? On va parler de en fait de l'inflation. Donc, aujourd'hui, c'est un cours d'économie. On va parler de la hausse des prix des jeux, mais en fait, on va pas parler de la hausse elle-même, on va parler de c'est quoi notre niveau de tolérance au niveau d'un prix d'un jeu. Et là, de quoi qu'on parle? Steve, c'était ton idée à toi. Peux-tu nous élaborer un peu?
Ben, c'est que il y a eu des événements qui sont arrivés, surtout en Europe, qui parlent beaucoup mal à dire encore justement. Hein. J'essaie de me dompter.
Dompte-toi.
C'est ça, je vais me dompter. Que j'avais eu cette idée-là parce qu'on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, que c'est une coupure de prix, ça fait perdre des jobs, mais il y a aussi d'autres facteurs qui peuvent faire augmenter les prix. Puis là, on a rajouter en plus c'est quoi notre seuil de tolérance parmi ce sujet-là, parce que on a tout un seuil de tolérance d'augmentation de prix, même tu sais, des fois on peut parler aussi de la langue du jeu, donc il y a ça. Mais on va commencer avec un tour de table.
Oui, un tour de table. Donc, y a-tu quelque chose que vous avez joué cette semaine, de quoi vous voulez parler, quelque chose dans les nouvelles ludiques?
Oui.
Quoi?
Je viens de vous en parler, mais je veux vous en parler encore. J'en parlais à tout le monde. Là, OK. Divine Right. Allez taper ça sur Board Game Geek. Divine Right, des droits divins. C'est un jeu de 76, si je me trompe pas. Bref, une vieille affaire. Tu regardes les prix. Check les prix, mon ami, dans l'historique de prix. C'est des copies de 300 piastres, 1979, 300 piastres, mon ami, 350 et ainsi de suite. C'est le même niveau de rareté que Magic Realm. Mais là, tu te dis, mais non, c'est pas 300 piastres parce que sur Board Game Geek, ils se vendent pas trop cher. C'est parce qu'il y a un Kickstarter qui vient de starter. Parce que ce Kickstarter-là, ben, il va rééditer ce jeu-là. Puis, je viens de faire dans mes pantalons, les gars. C'est tout.
C'est tout?
Je vais aller me changer.
Bon. Fait que c'est vraiment juste ça que tu veux nous dire. Hey, moi, je vais vous parler d'un super jeu que j'ai essayé cette semaine.
Pas encore des papiers.
Non, je vais parler de Muscle Taking. Muscle Taking, écoute, c'est un petit jeu avec une thématique de bodybuilding, donc avec du artwork un peu malaisant pour certaines personnes qui ont des problèmes avec leur sexualité. Mais, en fait, c'est parce que vous avez des beaux bonhommes musclés là avec juste un speedo, donc c'est super joli. Mais en fait, c'est quoi? C'est un jeu de levée, mais avec quelques twists intéressants, donc petit jeu de levée japonais. L'idée, en fait, c'est que les cartes, la couleur de la carte, elle est indiquée sur le dos de la carte, entre autres. Donc, vous savez toujours, à tout moment, qu'est-ce que vos adversaires ont comme couleur dans les mains. Ça, c'est une chose. Et ensuite de ça, ce qui est bien aussi, c'est que l'atout va changer à chaque levée. Mais vous savez d'avance qu'est-ce que ça va être. Donc, vous avez l'ordre des levées qui va être sur la table. Donc, ça donne vraiment un beaucoup de planification, puis d'essayer de bluffer, puis de deviner qu'est-ce que les autres joueurs ont en main. Et avec tout ça, en plus, la carte numéro 1 va battre la carte la plus forte. Donc, vous avez une espèce de cercle qui va se faire, là, le 1 bas le 10. Donc, c'est tout ça mis ensemble fait que ça fait vraiment un beau petit jeu de levée vraiment différent qui se joue en fait en 10 minutes à peu près. Ça, c'est une manche. Normalement, ça joue juste en une manche. Vous pouvez jouer à trois manches puis faire ça plus long si vous voulez. Mais c'est vraiment, vraiment surprenamment rafraîchissant, je vous dirais.
C'est vrai que c'est ça.
Hein? C'est rafraîchissant visuellement aussi.
Oui. C'est ça, exactement. Oui. Les petits speedos. En tout cas, tu pensais-tu un peu à moi? En juin?
ça shape de plage.
Non, c'est ça. Ouais, ça shape de basketteur. Là, c'est pas...
On a parlé de Kickstarter, mais aussi j'ai reçu un prototype relativement attendu qui sort le 22 avril sur Kickstarter, si je ne me trompe pas. Audiovisuel, ça va être intéressant. C'est le prototype de l'extension Abondance pour le petit jeu méconnu Earth qu'on aurait pu entendre parler. Une petite boîte pour une extension, donc on parle d'un petit format. Première chose que j'ai essayé de l'extension, ça va jouer jusqu'à 6. Très mauvaise idée. Comme d'habitude, quand on voit ça dans les extensions, un joueur de plus, toujours une mauvaise idée. Après ça... Ah oui, mais tu sais, premièrement, vous savez que le plateau de jeu, il est assez gros. On a notre tableau qu'on va avoir à côté de nous. On a le plateau central. Puis là, mettez 6 joueurs là-dessus. Ça vous prend une grande table. Puis vous voyez plus les objectifs au milieu de la table.
Ouais, déjà que ta grille de 4x4 avec ton plateau, ça prend déjà pas mal de place. 6 joueurs. C'est
ça. Il y en a un en face que ça...
Pour le temps de jeu, c'est pas si mal, par contre.
Parce ça n'a rien changé.
Non, c'est ça.
Sincèrement, pour le temps de jeu, ça n'a rien changé. Le truc qu'on ajoute aussi, c'est des petites graines mauves, mais qui vont changer dans le Kickstarter.
Des graines?
Oui, des petites graines, des semis. Appelle ça comme que tu veux. C'est des petites des petites graines mauves, mais là, qui vont changer de couleur parce qu'il y a un joueur mauve. Que, tu sais, ça aurait été pas ben pratique pour ça. C'est qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est une manière de manipuler un petit peu plus tes ressources, c'est que tu utilises ces graines-là pour gagner soit plus de cubes, soit plus des petits caca, là, l'engrais, je sais pas comment, les ressources qu'on utilise pour utiliser les cas, ou faire grandir des arbres, mais aussi la grosse affaire que j'ai pas vraiment utilisée dans cette partie-là, parce qu'à 6, on sait pas trop quand est-ce que ça va finir, mais ça sera au moins une partie à 2, ça va être plus intéressant. C'est d'aller chercher une carte avec un type d'objectif bien précis. Donc, si vous cherchez, je mets un exemple, un arbre avec une grandeur de plus grand que 4, ben là, tu flippes des cartes jusqu'à temps qu'en pognes un. On va avoir moins le hasard pour ça. Mais il y a quelque chose qui m'a laissé sur mon appétit qui n'était pas bien le fun, c'est que les fameuses graines, vous pouvez les gagner, tu sais, vos feuilles d'objectifs, vous pouvez en scraper une pour gagner une graine. Donc, vous allez scorer moins un objectif de moins. Mais en fin de partie, quand vous voyez que vous n'allez pas y arriver, vous scrapez ça, vous pognez une graine mauve, vous défaussez la graine mauve, puis vous pouvez prendre 4 cartes dans votre main, puis le mettre au compost. Donc, 4 points. Donc, je trouve que c'est comme l'art de donner un bonus à quelqu'un qui a mal performé. J'ai trouvé ça assez moyen. Puis il y a aussi une chose, c'est qu'il y a une réserve de cubes qu'on peut avoir maintenant. Tu sais, lorsqu'on produit des cubes, puis on en a trop, ben on perdait ce qu'on a produit trop. Ici, on peut avoir une banque. Donc, quand on va rajouter des cartes, on va pouvoir les rajouter. C'est une affaire que j'aimais beaucoup de Earth, que justement, fais ton action pour la...
Très, très permissif en ce moment. Là. Déjà, tu avais beaucoup de choix, tu avais beaucoup de choses à faire. Piger des cartes, écoute, tu te ramasses avec une main de 12 cartes. Si t'as pas celle que tu veux, ben, allez, adapte-toi à ce que t'as, puis c'est tout. Là, ça commence à tenir le monde par la main, là, rendu là.
Ouais. Dernière chose qu'on a rajouté qui peut être le fun, c'est ben, on trouvait que le jeu manquait d'interaction. On va avoir des cartes qui vont avoir soit un effet plus élevé ou moins bon en fonction de ce que vos voisins ont, ou vont donner même parfois un bonus à vos adversaires. Donc, je vais faire telle action, puis là, je vais faire « Ah, je veux-tu vraiment le faire? » parce que je vais donner quelque chose à un adversaire. Des petites interactions, parce que tout le monde chialait qu'il n'y avait pas assez d'interactions, alors qu'il y a une grosse course à l'interaction, ben, une grosse course aux objectifs. Que c'est, en gros, qu'est-ce que offre l'extension? Personnellement, très mitigé. Le jeu offre tellement déjà de choses, tu sais, qu'il y a tellement d'objectifs que j'ai pas vraiment parti que si. Le puzzle est là avec les nouvelles cartes, la diversité des cartes que je vais avoir, des objectifs. Donc, je suis pas tant convaincu par la nécessité d'une extension.
C'est pas nécessaire, moi, je vais être... mais je pense que c'était juste un coup de marketing. Ils en ont profité pendant que le jeu est encore dans le haut de sa popularité pour sortir ça. Donc, c'est sûr que dans 2 ans, 3 ans, il va être rendu déjà trop tard parce que la fenêtre d'opportunité pour les extensions est quand même relativement courte.
Honnêtement, tu sais, j'ai rien écouté de ce que t'as dit parce que j'étais juste concentré sur le fait que t'as parlé de manipuler des graines puis que là, ça fitait avec le jeu d'Antoine. Puis après ça, tu parlais de faire une réserve de cubes. Fait que là, moi, j'avais juste... En tout cas, bref, on est en train de produire un jeu 3X, là, mon ami. Hey, on peut... Peux-tu parler d'autres choses, s'il vous plaît? Là?
Oui, alors.
La hausse des prix, notre niveau de tolérance. C'est quoi le niveau de tolérance, vous autres, là?
Le niveau de tolérance, en fait, on va parler. Donc, on peut parler de un côté d'un jeu qui va faire augmenter le prix. Donc, moi, je vais parler des produits locaux. Pourquoi je veux parler des produits locaux? C'est parce que, comme vous le savez, donc avec Locomuse, on voulait faire une fabrication au Québec pour des papiers. Ça n'a pas fonctionné, donc on s'est reviré vers la Chine. Mais en fait, on s'est rendu compte, c'est que en allant vers la Chine, on a été capable d'upgrader la qualité du matériel de façon assez incroyable. Ce qu'on aurait eu au Québec, ça aurait été vraiment de la boîte comparé à ce qu'on a eu, ce qu'on a en ce moment. Puis le problème, c'est que ça a coûté la moitié du prix, pour être franc. Donc, c'est... Moi, j'ai bien de la misère avec le produit local. Oui, j'aime ça encourager local, mais si c'est pour la production puis que ça va faire augmenter le prix de 50%, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Je vais encourager local, par contre, pour les auteurs du Québec, pour les projets québécois, les compagnies québécoises, mais la fabrication, pour moi, c'est pas quelque chose que je trouve nécessaire, malheureusement. Mais de toute façon...
Il y a l'aspect pas juste économique, il y a l'aspect écologique du truc, parce qu'on s'entend que les usines en Chine... C'est de la pollution pas mal, ou même pas de la maltraitance, mais de la manière qu'on traite les employés là-bas. Ça, c'est,
voyons, ils sont horlotés, ils se sont fait faire des massages des pieds pendant qu'ils travaillent.
Oui, oui.
Tu sais, mais cet argument-là, je veux juste. Cet argument-là, l'éthique écologique, c'est que d'une manière ou d'une autre, il y a déjà un coût de production, puis il est trop tard de toute façon, tu sais, on va tout. Tout va péter dans 50 ans. Fait que, tu sais, au final, si tu veux être écologique, fais-en pas de Christy de jeu.
Et la bonne nouvelle du jour est amenée par Vincent. Non, mais de toute façon, en fait, je vais ramener ça d'un autre côté, Steve. La production qui est faite en Chine, en fait, au niveau du transport, c'est presque plus écologique parce que, de toute façon, toutes les matières premières utilisées dans ton jeu viennent de Chine, ou presque. Donc, ton papier vient de là-bas, il vient à peu près jamais d'ici, parce qu'on n'a pas de papier de finition comme ça au Canada. Ton carton va venir de là-bas, tout va venir de là-bas, donc au niveau du transport de marchandises, c'est à peu près identique. La seule chose, c'est le vide dans les boîtes. Donc là, ça va être un autre sujet, d'ailleurs, qu'on va amener tout de suite. Les boîtes à moitié vides, les boîtes trop grosses pour rien, les boîtes trop petites pour rien, le matériel trop minuscule, difficile à manipuler. Ça, c'est quoi votre tolérance à ce niveau-là?
Moi, sincèrement, les boîtes vides, là, ça m'écœure. Par contre, j'ai vu... ce samedi, justement, la Société des Jeux, Martin a parlé de plusieurs jeux qui ont été réédités, des petits jeux de party comme Caméléon, des trucs comme ça, puis ils ont tout passé à un mode de « on rapetisse la boîte », tout simplement économique, parce qu'une boîte plus petite égale moins de production.
C'est pas nécessairement un coût de production, parce que souvent, ça va être très semblable. Mais ça vient probablement du fait que le shipping, en fait, le transport maritime a quintuplé, même il était rendu x8, le prix original, là, il remonte en 2021. Il est redescendu à peu près à ce qu'il était avant pandémie, mais là, il remonte encore tranquillement depuis décembre à peu près à cause du canal de Suez là, qui est bloqué. Les bateaux sont obligés de passer par le sud de l'Afrique. Ils peuvent plus passer par train parce que les Russes ont évidemment bloqué
Ouais.
tout accès par train vers l'Europe de l'Ouest. Donc, les prix sont en train de remonter tranquillement. Donc, ils sont rendus, là, on compare à pré-pandémie, là, sont à peu près le double de ce que c'était. Mais sur un gros transport, ça ne reflétera pas tant que ça sur le prix d'un jeu.
C'est en fait, je pense que l'idée derrière les boîtes vides, c'est surtout aussi pour venir aplatir, tu sais. T'as souvent là, en accordéon, mais c'est vraiment juste pour assurer que le matériel bouge pas. Mais bien sincèrement, une boîte est faite pour porter du stock. Moi, j'aime les boîtes compactes. J'ai pas de tolérance. Honnêtement, je trouve ça particulier comme sujet, là. Moi, ce qui, tu sais, les boîtes, c'est pas quelque chose qui me dérange, à moins, tu sais, je veux dire, habituellement, là, une
Non, mais t'as
boîte.
un palace chez vous, Vincent. T'as de la place pour tes boîtes, toi.
Ouais, c'est sûr, ça c'est sûr. J'ai de la boîte, j'ai de la place pour Kingdom Death, là, fait
C'est
que.
ça.
Mais en fait, le problème avec les boîtes, c'est l'attente du client, du consommateur. Si tu as un jeu qui vient dans une boîte qui fait 10 pouces par 10 pouces, versus si tu as un jeu qui vient dans une petite boîte de 4 par 6, tes attentes ne seront pas les mêmes. Mais si tu payes le même prix pour le jeu dans une grosse boîte et une petite boîte, tu risques de vouloir prendre la grosse boîte, même si c'est exactement le même jeu, parce que tu as comme l'impression d'en avoir plus pour ton argent. Mais c'est juste la poudre aux yeux tant qu'à moi. Moi, je vais toujours préférer les boîtes compactes parce que mes armoires sont limitées. À un moment donné, j'ai plus de place, fait que je préfère les plus petites boîtes. Je peux en rentrer plus dedans.
Puis l'aspect de publicité, là, qu'on dit dans les magasins, là, mais on dirait que je trouve ça de moins en moins d'importance, puisque je pense que la majorité des gamers magasinent de moins en moins en boutique. C'est surtout les nouveaux gamers qui vont peut-être aller plus en magasin pour aller recevoir des
On serait
conseils.
étonné en fait, nous autres, la boutique locale ici en Abitibi, il y a vraiment des réguliers qui sont des gros gamers qui vont sur place voir les nouveautés. Surtout ceux qui veulent jouer en français.
Ouais.
Donc ça justement, c'était un de tes arguments que tu voulais apporter, Steve, donc la langue du.
Oui, parce que la langue va aussi avoir un certain nombre de tirages, parce qu'il va y avoir une production moindre. Donc, si on a un jeu avec plus avec du texte sur les cartes, le tirage va avoir une moins grande production, moins grande position, production égale un coût par unité plus grand. Puis ça va avoir des impacts. Puis, tu sais, je sais pas, est-ce que vous avez plus tendance à vouloir acheter des jeux en français, toi, chez Vincent? Ça t'importe peu, là, je pense, et
Moi, ça
même
va
si t'en as
dépendre du
l'aide.
jeu, en fait. Les jeux pour enfants, le plus possible en français. Surtout s'il y a du texte dedans. Si c'est pour en bas de 5 ans, je m'en fous un peu parce que de toute façon, l'enfant ne sait pas lire. Mais si c'est pour des enfants de 7 ans et plus, 7 à 12 ans, je dirais que ça va être toujours français. Pour les autres jeux, je vais prendre ce qu'il y a. Puis si le prix est beaucoup plus élevé en français, je vais prendre en anglais, ça c'est clair. Je me poserai même pas la question. Je vais prendre l'exemple de Ethnos qui était sorti quoi en 2018, 2017 dans ce coin-là. La version originale en anglais était 32 piastres à l'époque. La version en français, elle était 60. Ça pour moi, c'était un vraiment c'est
C'est un problème, là.
Ouais,
C'est ridicule.
oui,
Puis
mais
tu sais, surtout,
faut dire que
surtout le.
les prints sont beaucoup plus petits en français qu'en anglais. Le coût de traduction est quand même relativement bas parce qu'en fait, souvent les traductions sont faites à l'interne chez les éditeurs. Donc, c'est pas quelque chose qui va être super coûteux à faire non plus, mais
Ouais,
c'est.
mais Mais tu vois, en fait, par rapport à ça, c'est que il y a des éditeurs qui vont prendre le risque, comme je pense notamment, mettons, à Ravensburger, que les autres sont prêts à prendre le risque de le traduire en plusieurs langues. Versus quand je faisais de la traduction avec WizKids, ben eux autres, c'était plus un enjeu de pouvoir faire cette traduction-là parce que ils réalisaient pas en fait le potentiel du marché francophone, puis il n'y avait pas personne à l'interne pour faire de la traduction qui avait du bon sens. Ce qui faisait en sorte qu'ils shippaient en fait les contrats dans des petites boîtes, admettons, en France. Mais le gros enjeu derrière tout ça, c'est le fait que au final, il y a comme des gens qui essaient de vouloir gagner leur vie avec ça. Tandis que, je veux dire, la seule chose que tu as besoin, c'est de traduire un livre de règles. Puis ce livre de règles-là, ben, à un moment donné, il devient disponible sur Board Game Geek ou sur n'importe quelle autre plateforme. Puis là, c'est là que tu réalises qu'au final, c'est vraiment insignifiant, là, tu sais. Surtout des jeux où est-ce qu'il n'y a pas de texte, il n'y a pas d'icône, il n'y a que des icônes. Il y a comme de quoi un peu comme de contre-intuitif, là.
Oui, mais il faut faire attention aussi. Il y a certains jeux que ça peut être carrément onéreux de faire traduire les règles.
Ouais, des jeux, ben, ou des jeux narratifs.
Ouais, les jeux narratifs, ça en est un bon exemple. Ou les CCG aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes de texte sur les cartes et tout ça. Puis souvent, c'est que t'en ressors à tous les 6 mois des différents sets. Ou je prends comme exemple ici un jeu japonais, donc avec 350 millions de kanji que je ne comprends pas. Pour moi, traduire un jeu comme ça, c'est beaucoup plus complexe et plus coûteux, en fait. Qu'un jeu en anglais.
Un jeu d'anglais en français, exact. Oui, non, ça là-dessus, on est d'accord. Mais quand on parle, mettons, de jeux japonais, on va dans une catégorie vraiment, vraiment niche, là. Moi, je parle de jeux comme, par exemple, je vais prendre Azul, mais tu sais, Azul, je le sais qu'il a été traduit là, en français par la même compagnie, mais des jeux de ce style-là, de ce genre-là, qui se veut être grand public, qui se veut être accessible à tous, du moment que tu fais une traduction de ce jeu-là, puis que tu le vends, tu sais, comme tu as dit, là, quasiment 2 fois le prix, je veux dire, à un moment donné, il y a un non-sens derrière ça.
Non, ben, c'est seulement le livret de règles, en fait, puis l'affaire, c'est que... La différence aussi, je dirais, c'est, là je parle du côté éditeur, là, en fait, si tu veux l'imprimer en français et en anglais en même temps,
souvent, comme des papiers?
Je te parle de 2 versions distinctes. Mmh. Mettons que tu as Ethnos, si tu l'avais imprimé en français et en anglais en même temps, il aurait coûté le même prix parce qu'il aurait bénéficié du même rabais volume pour toutes les copies. Par contre, si tu fais 50 000 copies en anglais, puis 3-4 mois plus tard, tu fais 10 000 copies français, clairement, tu n'auras pas le même prix de revient. Là.
Fait que ça, non, exact.
Donc, si les traductions sont préparées d'avance et sortent en même temps que le jeu original, c'est clair que ça va être la différence de prix entre les deux va être vraiment très minime. À part pour les Fantasy Flight avec Edge, là, j'ai jamais compris pourquoi, mais les versions françaises étaient moins chères que les versions anglaises.
Ouais, mais ça, c'est tout simplement juste à l'interne là, directement. Là, fait que, puis souvent, je veux dire, les traductions de Fantasy Flight c'est tout un enjeu. Mais moi, peut-être quelque chose, là, mon niveau de tolérance, tu sais, je vais parler un peu par rapport à moi parce que pas nécessairement parler de quelque chose de spécifique par rapport à ça. Moi, mon niveau de tolérance par rapport, mettons, à la grosseur d'une boîte, par rapport à combien je suis prêt à payer, moi, personnellement, le matériel, c'est pas quelque chose qui m'interpelle, qui me dérange. Il y a des boîtes que j'ai payées, j'en ai parlé, là, des centaines de dollars, puis finalement, le matériel, ben, il vaut pas vraiment, c'est pas ça qui vaut...
Le meilleur exemple, c'est Boss.
Exact.
Ou Magic Realm.
Mais tu sais, mettons... Un jeu comme Nemesis, que je trouve qui aurait une belle... Il y a quelque chose d'intéressant dans ce jeu-là, mais à cause du prix, il devient vraiment difficile d'accès. Puis c'est comme si, au final, C'était quasiment un privilège là, d'avoir ce jeu-là, puis c'était quasiment un privilège. Puis là, c'est comme si ça hype aussi, ça mousse le fait que les gens veulent le mettre sur la table, alors que si, mettons, Nemesis était moins dispendieux, ben peut-être que ça aurait permis justement à plus de gens d'y avoir accès, puis de sentir, tu sais, de sentir qu'on démocratise le jeu. Donc moi, mon niveau de tolérance par rapport au jeu, c'est vraiment que je veux qu'on ait du matériel qui soit pas du matériel en fait extravagant qui va amener un surcoût, qui va amener une boîte extra, tu sais, beaucoup trop grosse que tu sais que qu'est-ce que le jeu est. Château de Bourgogne, pourquoi Château de Bourgogne, Christy, son charme, c'est qu'il est laid comme un cul. Puis Christy, quand tu y joues, tu fais comme « Oh wow, ok, j'ai joué à de quoi de vraiment beige, mais j'ai eu du fun à jouer à du beige. »
C'est encore pire comme beige et Carpe Diem. Tu veux un jeu?
Oui, j'ai joué à ça.
Carpe Diem, c'est très bon, mais c'est un des jeux les plus horribles. Pas grave, ça change rien à l'expérience de jeu, selon moi. À part c'est quand même pour départager bon. Les verts pâles et les verts foncés, là, ça c'est probablement la chose la plus horrible.
Puis ce que je trouve plate, c'est qu'il y a comme une espèce de forme d'élitisme inversé qui se crée. C'est-à-dire que les gens qui vont avoir la copie haut de gamme vont lever le nez sur les gens qui vont se satisfaire de leur petite copie, tu sais, bien banale avec des petites tuiles pis tout ça.
Hey, t'as pis juste la version de base?
C'est... Ouais, c'est ça.
Mais, c'est ça. Je veux juste t'amener une statistique. En fait, c'est un sondage. Je sais que t'aimes pas les sondages, Vincent. Tu me l'as parlé.
J'aime ça, les sondages.
Mais Gus Senko a quand même. Il y avait une question que je trouvais intéressante dans leur sondage à propos des prix. Et c'était: avez-vous déjà renoncé à acheter un jeu à cause de son prix trop élevé? Donc, à peu près presque 1500 répondants, là, mais il y en a quand même 86% qui ont dit oui. C'est quand même assez assez important là, comme chiffre. Donc, on parle de 86% de la population qui ont refusé d'acheter un jeu parce qu'il était trop cher. Bon, c'est sûr qu'il y a toujours des façons de contourner, là, donc je veux dire salut à...
Ça m'arrive à chaque mois.
Non, mais moi, ça m'arrive pas parce que je suis pas un fan des jeux de plastique. Mais c'est sûr que Kickstarter a changé aussi un peu la donne à ce niveau-là. Ils ont tiré vraiment les prix vers le haut et c'est l'impression que j'ai. Si on regarde historiquement, en fait, j'ai cherché vite le prix original de Catan en 97. Et c'était $39 canadiens. Donc, et en 2024. Si on prend l'inflation, ça aurait dû être autour de 68. En ce moment, il se détaille à 77. Donc, on parle d'à peu près 11% plus élevé que le prix donc avec inflation seule. C'est pas, pour moi, c'est pas énorme comme différence. Donc, on parle du même jeu. C'est sûr qu'il y a eu des petites modifications au niveau du matériel. Je pense qu'ils ont refait le visuel, là, les graphismes, ils ont changé les trucs en bois pour des trucs en plastique, qui auraient dû réduire le coût d'ailleurs plutôt que de l'augmenter. Mais c'est ça, t'sais, l'augmentation n'est pas outre mesure vraiment trop élevée par rapport à l'inflation. Un peu la même chose aussi pour Patchwork. Patchwork qui était $30 à sa sortie, il est rendu à 44. Avec l'inflation, il devrait être autour de 37 à peu près. Donc, encore là, on a quand même une bonne différence au niveau du prix. Donc, on ne peut pas blâmer l'inflation. Mais c'est qui s'en met dans les poches? Moi, c'est ça la question que je me pose.
Ben, au-delà de ça, en fait, c'est parce que l'enjeu aussi avec Kickstarter, c'est que souvent, ces éditeurs-là, les personnes qui vont faire le Kickstarter, vont réaliser: ah, ben là, finalement, ça nous a coûté plus cher que prévu. Donc, on va le détailler plus cher parce que là, nous autres, ça nous a coûté plus cher. Puis, il y a comme quelque chose, à un moment donné, qui devient un peu, c'est comme si on, à la base, Kickstarter, ça voulait être une plateforme pour encourager quelqu'un à accomplir son rêve, entre guillemets, alors que là, c'est purement devenu mercantile. Puis, c'est juste pour faire rouler, puis pour faire de l'argent.
De la prévente, là, de nos jours. toujours. Là.
Exact, exact. Puis si je peux me permettre, un jeu qui vient de passer sur Kickstarter par des Montréalais, ça s'appelait Towers, T-A-H-W-A-R-S.
Ouais, Luca Vince Caltabiano.
Exactement. Puis eux autres, leurs copies, il y avait du plastique, il y avait du matériel quand même de très très haute qualité, mais ils vendaient en bas de 50$ avec shipping inclus, parce que pour eux, le but, c'était de faire ça pour le plaisir, pour l'amour du jeu. Ils allaient pas faire vraiment une grosse passe de cash avec ça. Ils voulaient juste faire un Kickstarter. Puis ça, on est en train de le perdre. Je trouve vraiment le fait que on veuille faire un jeu pour le plaisir de le faire. On dirait qu'il faut que ça devienne une business, puis il faut faire de l'argent avec ça. C'est un peu là-dessus, je commence à être un petit peu, je questionne beaucoup cette intention-là.
Ben, c'est parce que l'affaire, c'est que le prix du jeu, lorsqu'il va sortir en boutique après, il va être le même que sur Kickstarter, souvent. Donc ça veut dire qu'il aurait pu le vendre moins cher. Mais bon, ils sont... c'est sûr que tout le monde veut faire de l'argent. On se le cachera pas, là, ça reste.
Ben, justement, il y a d'autres trucs qu'on voit moins souvent. C'est surtout avec les collectible card games qu'on a vu dernièrement. C'est où est-ce que la boutique augmente le prix vu une certaine rareté du produit, là, qu'on a vu avec l'Orcana beaucoup en début d'année l'année passée, je dirais, à la fin de l'année, où est-ce qu'il manquait des produits, qu'il y a plein de boutiques qui ont doublé, triplé le prix juste pour... se sont dit, ben, si je peux faire de l'argent, ben, tant mieux pour moi, puis tant pis pour le consommateur. Ça se voit pas vraiment, par contre, dans les jeux de société, là, cette pratique-là, parce que ces jeux-là vont juste traîner sûrement dans les tablettes, puis que les autres qui le vendent moins cher vont épuiser leur stock. Ce qui est... Il y avait justement avec les versions françaises qu'il y avait l'office de la langue française qui oblige quasiment les compagnies québécoises à vendre au même prix que le produit en anglais, mais là ils peuvent pas baisser le prix en français parce que ça, ils vont perdre de l'argent. Il faudrait qu'ils montent le prix en anglais, mais en même temps qu'au Canada on est tellement proche de l'Ontario que la différence de prix va être si c'est juste 15$ sur le même produit, ça n'a aucun sens. Fait que plein de choses. Ouais, exactement.
Dernier petit point que je voulais parler des jeux éco-responsables, les jeux éco-friendly, soit fait avec de langue de soya, des papiers en bambou, appelle ça comme tu veux, là. Soit utilise du matériel plus écologique, moins de plastique et tout.
Les fameux sacs Ziploc, là, qu'il y en a moins, là.
Ouais,
les Christies de. Excusez-le, intolérant. J'ai reçu un jeu, Pueblo. Les Christies de sticker, au lieu d'avoir du cellophane, c'est la même empreinte écologique que d'avoir 4 stickers sur ta Christie de boîte qu'un cellophane.
C'est faux, en fait.
C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai.
Non, pas en tout. Parce que, en fait, les stickers sont assez petits. Souvent, sont faits avec du matériel biodégradable, alors que le cellophane ne l'est pas. Mais, bon, il y en a qui sont quand même faits avec du matériel biodégradable pareil.
Sérieusement, c'est de l'hypothèse. Tu sais, honnêtement, là, ça, l'idée du biodégradable, du jeu écologique, moi, je trouve que c'est une espèce de vertu hypocrite. Honnêtement,
de ton côté, en fait, Vincent, pour moi, je suis pas prêt à payer plus cher pour un produit écologique parce que pour moi, le jeu n'est pas un produit jetable de toute façon. C'est un produit que tu vas conserver. Donc, si au niveau de la fabrication, l'empreinte écologique est la même et non pas au niveau du déchet, parce que le déchet, on s'en fout. Parce qu'il n'y en aura pas de déchets, je vais le conserver pendant 60 ans.
Mais ça dépend. Justement, on parle de pellicule ou des punch boards, des paquets de carton qu'il y en avait.
Pour moi, c'est important. Même que, là, je vais le dire, chez Locomuse, là, toutes nos soumissions maintenant sont faites. Il n'y a plus de plastique autour des cartes, puis il n'y a plus de shrink wrap, il y a juste deux collants.
Ah, seul.
Fait que c'est vraiment. On essaie de réduire le plus possible. Puis pas de baggies non plus, pas de ziplocs, parce que. C'est pas nécessaire. Ceux qui en veulent, ils en ont 53 millions chez eux, des eux.
Mais puis de toute façon, c'est parce que là, puis ça me fait penser au jeu là, qui est sorti, là, Rangers, là, quelque chose comme ça, là, Forest Rangers, en tout cas. Mm-hmm. Puis que là, écoute, c'était donc ben hot parce que là, le jeu était éco-friendly. Il y a eu un coût écologique, ce jeu-là, peu importe la qualité de son matériel. Puis je veux dire, ce matériel-là, au final, comme tu as dit, c'est un jeu que tu gardes. Mais le reste a coûté quand même. Ça l'a coûté de l'énergie. Ça l'a coûté à ces compagnies-là, de ces industries-là, de l'énergie qui ont produit d'une quelconque manière. Et donc, ça l'a causé un coût environnemental. Puis, je trouve que de se dire, ah, ben, on va louanger ce genre d'initiative-là, c'est d'être hypocrite, puis complaire dans notre surconsommation. Ben ouais. Franchement, c'est ouais. Très trash là, ce que je dis, c'est très rough là, mais honnêtement, j'ai bien de la difficulté avec ça.
Il faudrait que les éditeurs en fait commencent à la place de faire des jeux éco-responsables, de commencer par faire des plus petites boîtes. Déjà, ce serait un excellent premier move à faire. Écoutez, il est déjà rendu 35, on a dépassé notre temps. Avez-vous un dernier petit mot à dire avant qu'on vous lâche?
Ah, mais tu sais, on aurait pu parler aussi des choses qui auraient pu influencer, tu sais, justement, l'IA à travers ça peut baisser le prix. Est-ce qu'on voudrait encourager ça? Mais ça, je pense que c'est un sujet d'une émission au grand complet, là, qu'on n'a pas parlé.
Effectivement, oui. Ben, c'est un bon point quand même de parler du IA pour la baisse des prix, parce que les petits éditeurs, souvent, ou les auto-éditeurs, carrément, n'auront pas les moyens de faire des illustrations par des artistes. Donc, sur un petit jeu que tu veux imprimer en 500 000 copies, ben, tu n'as pas les moyens de payer 5000 piastres d'illustration. Là, ça, c'est clair. Donc, le IA, est-ce que c'est quelque chose que vous êtes prêt à tolérer pour faire baisser les prix ou pas? Ça, c'est à vous de voir. Moi, j'ai un exemple, en fait, un petit jeu. C'est pas du IA, mais les illustrations sont horribles. Le jeu est éco-friendly parce qu'il a été fait 100% en France. Donc, tout est local. Le jeu est 64 cartes dans une petite boîte et il se vendait 20 €, c'est-à-dire à peu près 30 $ canadiens pour 64 cartes. Donc, vous voyez ça comme vous voulez. Ça reste un jeu assez cher pour ce que c'est. Mais... évidemment, la personne a fait tout ça avec le éco-responsable tatoué sur le cœur. Vincent?
Oui, ben écoute, si vous voulez avoir une discussion avec moi, je suis parlable, mais sachez à la base que j'ai tort, vous avez raison. Non, le contraire.
Il a scrappé son punch.
Mais blague à part, non, mais je pense que t'as raison. La solution vient pas dans. Ça vient, oui, dans le matériel, mais ça vient aussi dans la qualité du jeu en tant que tel. Donc, je prends l'exemple de AEG qui ont décidé de réduire le nombre de jeux qu'ils voulaient faire par année, mais d'augmenter la qualité du gameplay puis du jeu. Ça, en tant que tel, ça va être vraiment, vraiment bénéfique pour non seulement le côté écologique, mais aussi pour l'industrie en général, d'arrêter de diluer toutes les différentes sorties, les 20 000 jeux qui sortent par année, puis de commencer à se concentrer sur ceux qui valent vraiment la peine, qui valent la chandelle d'être sortis, puis de promouvoir ces jeux-là. Ça va être quelque chose qu'on va devoir commencer à réfléchir à long terme, puis d'éviter que j'ai une idée de jeu, donc je veux la produire, je m'en vais sur Kickstarter, puis je la produis, peu importe. Commençons à réfléchir un peu plus, puis commençons à explorer davantage, puis commençons aussi à se dire, attends un peu, c'est pas parce que j'ai une idée de jeu que c'est comme la perle rare, là, tu sais. Ça me fait beaucoup penser à la fameuse loi de Dunning-Kruger, que moins que t'en connais sur un sujet, plus tu te penses expert. Fait que posons-nous toujours cette question-là.
Bon, mais merci, messieurs, et on se reparle la semaine prochaine. Ciao, ciao.
Ciao.
Bye.